VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 13 avril 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Les titres.
Au Gabon, des réactions violentes des partisans d'André Mbaobam à l'annonce de la mort de l'ex-dirigeant de l'opposition.
La coordination des mouvements de l'Azawad ne signera pas l'accord d'Alger en l'état, selon un communiqué de la CMA.
Au Nigeria, les résultats des élections régionales de ce week-end sont nettement favorables au congrès progressiste du président élu Muhammadu Buhari, qui va maintenant contrôler plusieurs états-clés.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et 5 homologues européens se félicitent de la reprise aujourd'hui à Alger des pourparlers sur la Libye tenus sous l'égide des Nations Unies.
Les Républicains critiquent la rencontre historique entre le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro au Panama.
Hillary Clinton, l'ex-première dame et ancienne secrétaire d'État américaine, a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2016. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. L'annonce du décès dimanche de l'ancien leader de l'opposition gabonaise, André Mbaobam, a suscité la colère de ses partisans à Libreville, qui ont incendié des voitures et des bâtiments, dont celui de l'ambassade du Bénin, selon des témoignages concordants cités par l'AFP. La mort d'André Mbaobam, à l'âge de 57 ans, a été annoncée par sa formation l'Union nationale. Zachary Miboto, président du principal parti d'opposition du Gabon, n'a pas précisé les circonstances du décès.
À l'annonce de sa mort, des heurts ont éclaté dans différents quartiers de la capitale où des manifestants ont laissé éclater leur colère avant d'être dispersés par un important dispositif policier. Ils accusent le pouvoir d'avoir jeté des sorts à l'opposant et d'être à l'origine de ses problèmes de santé. L'opposition est très critique à l'égard du directeur de cabinet de la présidence, Maxence Akroumbessi, d'origine béninoise et naturalisé gabonais.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé dimanche que les responsables des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire seront jugés dans le pays, refusant ainsi tout nouveau transfèrement à la Cour pénale internationale, avant d'inviter les pro-Gbagbo à demander pardon, condition de toute grâce présidentielle ou amnistie. Monsieur Ouattara parlait lors d'une rencontre télévisée avec les victimes des violences post-électorales. Nous n'allons épargner personne, où que ce soit sur le territoire national, a-t-il martelé, réfutant l'accusation de justice des vainqueurs.
Considérée comme une protagoniste majeure de cette crise, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été récemment condamnée à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Elle est également poursuivie pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, à l'instar de son époux, écroué depuis fin 2011 à La Haye, et de l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé. Mais Abidjan refuse le transfèrement de l'ex-première dame à La Haye, affirmant être en mesure de lui assurer une justice exemplaire sur le sol ivoirien. Mais seuls les pro-Gbagbo sont pour l'instant inquiétés, nourrissant les accusations de justice des vainqueurs, rappelle l'AFP.
Toujours en Côte d'Ivoire, les déguerpis des quartiers précaires d'Abidjan, fatigués d'attendre les promesses faites par le gouvernement pour leur recasement, ont donné de la voix ce week-end. Ils veulent que les clauses de leur départ soient respectées, nous dit notre correspondant sur place, Germaine Ri.
La réinstallation et le dédommagement des déguerpis des quartiers à risque du district d'Abidjan annoncé tarde à venir. Keita Modibo est le président du comité de gestion du quartier Boribana.
Nous avons 300 et quelques personnes qui sont logées, c'est les voisins, c'est les amis, c'est les cousins. Là, aujourd'hui, personne n'a été dédommagé. Après cette crise qui s'est passée, cette guerre qui s'est passée, nous pensons que vraiment les choses allaient s'arranger. Mais aujourd'hui encore, nous pensons que nous sommes toujours dans la guerre.
Dame Doudou Dorcas, président des femmes de Gobelé, la situation est vraiment difficile parce que depuis qu'ils ont cassé, nous sommes dans la rue. Nos enfants ne vont même pas pratiquement pas à l'école. Parce que nous sommes logés, nous sommes très loin des établissements des enfants. Mes deux filles ne vivent pas avec moi. Elles ont 15 ans. Où elles vivent actuellement, je ne sais pas.
Innocent Nielbien, président de l'initiative ivoirienne pour la démocratie et le développement qui encadre les déguerpis, recommande que les engagements soient respectés.
Il faut simplement respecter la parole du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a décidé donc d'attribuer 850 hectares à ces populations. Je pense que ce n'est pas une chimère que de pouvoir faire cela.
Le directeur général de la construction et de la maintenance souligne que leurs interlocuteurs n'ont jamais été les mêmes.
Kiyomet Benou, pour ce qui est prévu par le gouvernement, nous sommes à la fin des différentes opérations. Ces personnes, en fait, sont parties, puisqu'ils ont reçu des kits, sont partis. Et le temps qu'on a mis pour revenir pour faire la démolition a permis à d'autres personnes de venir réoccuper, recoloniser ces sites.
René Legri-Okou, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme, pense que les règles n'ont pas été respectées.
Les populations ont été déguerpies, se retrouvent dans la rue, dans un état de précarité, de vulnérabilité encore plus grand.
Sur sept quartiers précaires démolis, où l'on note environ 100 000 personnes, seulement 400 ménages ont été dédommagés à hauteur de 150 000 francs CFA par ménage. Germaine Dri, Abidjan, VO Afrique.
Au Nigeria, le parti du président élu a raison de célébrer ce matin. Les résultats des élections régionales de ce week-end sont nettement favorables au Congrès progressiste qui va maintenant contrôler plusieurs états clés. L'APC, dont le porte-étendard Muhammadu Buhari vient de battre Goodluck Jonathan à la présidentielle, aura été victorieux à Lagos, Kaduna, Katsina, dans l'Adamawa et plusieurs autres états. Selon notre correspondant à Kano, Adamu Aboubakar Gwarzo, le scrutin s'est généralement bien déroulé.
La journée électorale s'est bien passée dans toutes les 39 États où il y a eu élection. Ça s'est passé dans la paix. C'est seulement dans l'État de Parakou, Patakot, qu'il y a eu un peu de problèmes. Le gouverneur Ameti a souligné qu'il n'y en a pas eu élection à Patakot, que le président sortant Goodluck Ebele Jonathan et sa femme ont triqué les élections en faveur de leur candidat. Mais dans le nord du Nigeria, de toute façon, le parti de l'opposition de Muhammadu Buhari, le président élu, a rapporté presque tous les États et la presse a rapporté tout le nord-ouest du Nigeria et le nord-est du Nigeria, précisément nord-central et sud-ouest du Nigeria aussi. Et la presse a rapporté tous les États.
On fait remarquer l'importance de la victoire du parti progressiste à Lagos.
Oui, mais vous voyez déjà, Lagos, c'est le siège du parti parce que Lagos, depuis le retour de la démocratie en 1999, Lagos a été toujours à l'opposition. Donc, on ne se tourne pas si le parti progressiste a rapporté Lagos. Parce que Lagos souvent est à l'opposition. C'est pour la première fois que Lagos maintenant devient le temps du mouvement de la présidentielle.
Politique américaine, les spéculations ont pris fin. Hillary Clinton va briguer l'investiture du Parti démocrate en vue de la présidentielle de l'an prochain. C'est dans une vidéo sur son site hillaryclinton.com, puis dans un tweet que Hillary Clinton, 67 ans, ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d'État, a officialisé sa seconde candidature aux primaires démocrates après sa défaite de 2008 face à Barack Obama. Des défis, elle va certes en trouver, mais pour l'analyste politique Herman Cohen, un républicain, Mme Clinton sera difficile à vaincre.
Je crois qu'elle voudrait faire un appel à la classe moyenne et à la classe ouvrière. Elle constate que ces gens-là sont en difficulté, que leur niveau de vie est en baisse, leur pouvoir d'achat est en baisse. Donc elle dit, moi je suis pour vous, je vais venir vous voir maintenant dans les différents états, je vais parler avec vous pour entendre vos soucis. Donc elle ne parle pas de ses anciens postes, sénateur, secrétaire d'État, première dame, elle dit, je suis pour vous, les gens en difficulté.
Mais après deux mandats consécutifs du président Barack Obama, l'Amérique est-elle prête pour un autre président démocrate?
Oui, c'est une bonne question parce que Obama a commencé très populaire et maintenant, vers la fin de son deuxième mandat, il est beaucoup moins populaire. Donc est-ce que Hillary Clinton peut échapper de Barack Obama? Elle ne peut pas dire, oh, je ne suis pas Barack Obama, je n'ai rien à faire avec lui. Elle ne peut pas dire ça, parce qu'elle était ministre. Mais en même temps, elle doit être un peu différente. Et ce sera un grand défi pour elle.
Et maintenant, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Ouverture à Marrakech ce 13 avril de la 7e édition du Forum africain sur le carbone. Les ministres vont plancher sur un nouvel accord universel sur le changement climatique, a indiqué la Banque africaine de développement, un des organisateurs de la rencontre cité par l'agence PANA. Ce forum s'inscrit dans la logique de celui de Windhoek l'an dernier, lors duquel les pays se sont engagés à conclure avant fin 2015 un accord global sur le changement climatique dont la mise en œuvre est prévue pour 2020. À Kinshasa, en RDC, premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif, l'objectif est de relancer l'industrie congolaise tout en incitant à produire et consommer local. Germain Kambinga, ministre de l'Industrie.
Le premier forum de Kinshasa s'inscrit dans la lignée de ce qui est fait depuis le début de l'année autour de la problématique du financement de l'industrie, la production industrielle congolaise, le Made in Congo. Dans le premier cas, à court terme, une banque dévolue à l'investissement devrait voir le jour. L'idée sous-jacente est de favoriser ou de rechercher des instruments financiers innovants à l'intention des entrepreneurs.
Dans son rapport annuel, la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU a appelé les pays africains à mettre l'accent sur le commerce transfrontalier pour impulser l'industrialisation. Lors du lancement du rapport à Addis Abeba, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Ghana, Eko Spiogarbra, a estimé qu'il était essentiel d'accroître la chaîne de valeur sur le continent africain.
Les sports à présent avec Élisée Onk-Patine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Idrissa.
Football ont joué ce week-end, le dernier tour retour des Jeux africains Brazza 2015. Et chez les hommes, la Côte d'Ivoire est éliminée.
C'est suite au match nul concédé à domicile 0-0 face au Burkina Faso que la Côte d'Ivoire ne verra pas les Jeux africains de Brazzaville. Déjà à l'aller, les Ivoiriens ont été battus 2-1. Autre qualifié, le Soudan. Les Soudanais défaits en Afrique du Sud 1-0. Trop court pour les Sud-Africains battus à l'aller 2-0. Le Zimbabwe qui est allé chercher sa qualification à Yaoundé face au Cameroun. L'Égypte, double vainqueur du Burundi, sera aussi à Brazzaville.
Chez les dames, le Cameroun sera présent.
Oui, Idrissa. Et comme à l'aller, les Camerounaises se sont imposées 2-1 face à l'Éthiopie. Pour les autres qualifiés, notons entre autres la Tanzanie battue à domicile par la Zambie 3-2. Un résultat sans conséquence puisque les Tanzaniennes ont déjà fait l'essentiel à l'aller 4-2. Le Nigeria qui également valide son ticket grâce à son succès de 5-0 face au Mali. Qualification de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Notons aussi la qualification de la Côte d'Ivoire suite au forfait de la Guinée-Bissau.
On reste sur le continent pour parler cette fois de quelques championnats de première division.
En Afrique du Sud, Kaizer Chiefs est à 2 pas du titre. À 5 journées de la fin de l'épreuve, le club de Soweto a battu AmaZulu 1-0. Un succès qui lui permet d'avoir 10 points d'avance sur les Mamelodi Sundowns qui ont fait match nul contre Black Access 1-0. Au Gabon, le championnat est à sa 3e journée et le FC Missile, vainqueur du stade Migovéan 3-1, s'empare seul de la première place avec 9 points devant le Canon 105, 6 points, qui a battu la veille l'Union Sportive de Yem 2-0.
Direction la RD Congo, le tout-puissant Mazembe battu lors de la 9e journée des playoffs.
Effectivement Idrissa, le vainqueur a pour nom chaque 11 qui s'est imposé sur la marque de 2-1. Les Corbeaux gardent tout de même leur 2e place au classement provisoire. De son côté, la SV Club a été contraint au partage des points. Les Moscovites ont fait 0-0 face aux Kamikazes de Lumumbashi Sport. Les playoffs dominés d'ailleurs par Don Bosco, malgré son match nul concédé à domicile 0-0 face à Saint-Éloi Lupopo dans l'un des derbys de Lumumbashi. A noter que le match au sommet de cette 9e journée qui opposait le Daring Club Moteba Pembe à Sanga Balende a été arrêté à la 87e minute après que les Immaculés ont jeté des projectiles sur la pelouse du stade Tata Raphaël de Kinshasa.
En Europe, le FC Barcelone perd des points dans la Liga espagnole.
Mis sous pression par le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 contre Eibar lors de la 32e journée, Barcelone a été tenu en échec par le FC Séville 2-0. Les Catalans n'ont plus que 2 points d'avance sur les Merengues. 32e journée en Angleterre et le match au sommet entre Manchester United et Manchester City a tourné à l'avantage des Red Devils, vainqueurs par 4-2. Une victoire qui permet à l'équipe de Louis van Gaal de prendre la 3e place aux dépens des Citizens. Une Premier League dominée par Chelsea qui s'est imposée sur le fil à Queen Park Rangers 1-0 grâce à Fabregas. Et puis avec vous Idrissa, les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat professionnel nord-américain de basket.
Brooklyn Nets 73, Milwaukee 96, Cleveland 78, Boston 117, Charlotte 77, Détroit 116, Sacramento 111, Denver 122, Oklahoma City 104, Indiana 116, Atlanta 99, Washington 108, New Orleans Pelicans 114, Houston 121, Phoenix 91, San Antonio Spurs 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La coordination des mouvements de l'Azawad ne signera pas l'accord d'Alger en l'état, c'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de la CMA. Cela contrairement aux correspondances envoyées par la médiation algérienne invitant les différentes parties à une cérémonie de paraphe de l'accord d'Alger par la CMA le 15 avril prochain. Mais cette décision de la CMA, les Maliens ne veulent pas baisser les bras, car la paix est l'affaire de tous les Maliens, acteurs de la société civile, ressortissants de Kidal. Tous les Maliens veulent se donner la main pour avoir la paix au Mali, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
La décision de la CMA n'est point une surprise pour les acteurs de la société civile malienne, car tôt ou tard, ils vont paraffer l'accord d'Alger 2015. Sidiki Konaké, de confession religieuse, et Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile malienne.
Le paraffe et la signature, c'est le début d'un travail extrêmement difficile, très difficile. Et c'est pour ça que l'engagement de tous est recommandé et obligatoire pour que nous atteignions l'objectif de cette unité de notre pays.
Seul le gouvernement ne peut pas, seuls les partis politiques ne peuvent pas, seule la société civile ne peut pas. Il faut que chacun, où qu'il soit, joue sa partition pour que nous puissions retrouver notre sécurité d'antan.
Les jeunes déplacés des régions nord du Mali, surtout ceux de Kidal, ne désespèrent point. Sidi Elmehdi Albaka, ressortissant de Kidal.
Nous allons servir de relais partout où besoin sera pour dire à tous nos frères du Mali que rien ne vaut la paix et que ce Mali restera un et indivisible, donc il ne sert absolument à rien de créer des problèmes là où il n'y en a pas. S'il y a des problèmes de développement à Kidal, il y en a aussi à Kangaba, il y en a à Kai, mais il faudrait qu'on se donne les mains pour relever le défi.
La décision de la coordination du mouvement de l'Azawad est surtout motivée par les ambitions du MNLA qui se bat depuis le début de la crise pour la division du Mali. C'est ce que nous explique Sidi Mohamed Ishrach de Tessalit.
C'est que les populations du Nord, toutes ethnies ou groupes culturels confondus, n'ont pas demandé au MNLA de lutter pour elles, ni pour l'indépendance, ni pour le fédéralisme, ni pour l'autonomie. Le MNLA agit pour lui-même. À la limite, je dirais que s'il a des commanditaires, il agit de concert avec ses commanditaires. Il y a peut-être un bras derrière, il faut chercher, il faut essayer de comprendre.
Pour le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad, FPA, l'État n'est pas à la division, mais à l'union autour du Mali. Hassan El-Meidi dit Jimmy le rebelle.
C'est de dépasser ce stade de stagnation qui ne permet à personne d'aller vers l'avant. Le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'il résout ses problèmes et qu'il rebâtisse ce que nous tous nous avons détruit. Tout le monde va aller d'abord vers la raison parce que nous nous sommes retrouvés éparpillés, découpés par tranches, des coordinations, des plateformes, un gouvernement. Or que c'est un État qui est là, qui a besoin de se ressouder, se compléter. Tous ses fils sans exception doivent se sentir de ces pays.
En tout cas, les Maliens souhaitent la paix car l'insécurité est en train de gagner tous les pays. Même ce dimanche 12 avril 2015, un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine entre Djabali et Niono. Le bilan est de 2 morts et 3 blessés. Les blessés sont actuellement en traitement au niveau de l'hôpital régional de Ségou, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina, les autorités de la transition ont engagé depuis quelques jours une opération dite « main propre » qui a mis aux arrêts déjà plusieurs ministres et maires du régime Compaoré pour, et je cite, « manière de servir », une mauvaise manière de servir. Chasse aux sorcières, opération ciblée, des éléments de réponse dans ce reportage de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Monsieur Kabouré Lamoussa Salif, ex-ministre des Mines et de l'Énergie, interpellé pour malversation et mauvaise gestion présumée. Monsieur Zongo Adama, ex-maire de Tangen d'Assouri, interpellé pour malversation présumée dans les lotissements. Ouedraogo Joani, ex-maire de Boulmiougou, interpellé pour malversation présumée dans les lotissements. Monsieur Bougouma Jérôme, ex-ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, interpellé pour malversation présumée.
Et chaque jour qui passe voit la liste des interpellés s'allonger. Que pensent alors les Burkinabés de cette opération main propre?
Ça se discute pas quoi. Si vous n'avez pas bien géré, il faut venir le prendre. Ils ont pillé.
C'est ce qu'on souhaitait même. En tout cas, moi je pense que c'est une très très bonne chose. Si le régime Blaise Compaoré, il avait des ministres, peut-être des opérateurs économiques, mais avec ces arrestations, il y aura beaucoup de classements. Je voulais que la gendarmerie ou la police n'aura bien suivi les enquêtes.
J'apprécie très bien cette opération main propre dans la mesure où cela va nous permettre de recouvrir certains biens publics qui sont perdus si on va jusqu'au bout de l'opération. Nous savons qu'il y a beaucoup de sociétés au Burkina aujourd'hui. Si on va aller jusqu'au bout de la logique, il y en a qu'on va enlever à la tête de ces sociétés. Ça va devenir des sociétés d'État dans la mesure où c'est l'argent du peuple qu'on a transféré dans des sociétés privées. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit aller jusqu'au bout.
À l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement, anciennement chef de file de l'opposition, la lecture politique de ces arrestations indique qu'elles sont ciblées, suivant les explications de son porte-parole, Rabbi Yameogo.
On a remarqué actuellement que quand on parle de mauvaise gestion, de surfacturation, de lotissement, ce sont les militants et les responsables d'un seul parti qui sont interpellés. Cela ressemble à une persécution. Et l'UPC est favorable à ce que tous les partis politiques, y compris l'UPC, s'il y a des militants, des citoyens, quel que soit leur rang actuel ou passé, qui ont posé des actes présumés répréhensibles, que les autorités de la transition interpellent tout le monde.
De son analyse, Maître Benevende Sankara ne voit pas en cette opération une chasse aux sorcières. Bien au contraire.
Je crois que ce n'est pas des arrestations ou des procédures ciblées. Dès lors que la justice est saisie, ce n'est pas la personne, ce sont les faits de la personne. Ce sont ces faits-là que l'on poursuit et c'est vous qui en tirez les conséquences parce que c'est vous qui les avez posées. Donc il s'agit d'une application dura lex sed lex et je pense que de ce point de vue-là, ce ne sont pas des procédures qui sont dirigées particulièrement contre les bronzes de l'ancien régime.
Zoumana Ouendogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Kaku Nyangbo, l'un des rares députés indépendants de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Âgé de 53 ans, Kaku Nyangbo fait partie du groupe parlementaire Espérance composé de 8 députés indépendants élus aux législatives de 2011. Il sera opposé à l'actuel président Alassane Ouattara, investi par son parti en mars et qui vise une réélection dès le premier tour. Joint par Jean-Roger Bion, le député Kaku Nyangbo a expliqué le sens de sa candidature à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire.
Actuellement, on constate que la plupart des jeunes qui ont fait des études et qui ont jusqu'à 36 ans n'ont pas encore la chance d'avoir un premier emploi. C'est inadmissible. Alors que ces jeunes ont soit la maîtrise, ils sont soit ingénieurs, ils ont soit le master. Comme on n'en parle pas du tout, cette préoccupation justifie pleinement ma candidature.
Alors vous affirmez l'indépendance de votre candidature sans l'onction d'un parti?
J'affirme l'indépendance de ma candidature parce que je veux réécrire totalement la Côte d'Ivoire, réécrire ses institutions et réécrire aussi son développement économique. Donc c'est vraiment une nouvelle Côte d'Ivoire que je propose.
L'un de vos projets, c'est de lutter contre la corruption. Quelles sont vos propositions en la matière?
Une corruption, c'est une école à moins, c'est un centre de santé à moins. Donc pour moi, la corruption peut être qualifiée de crime contre l'humanité. Parce que quand il y a un centre de santé à moins, c'est de nombreuses personnes qui décèdent par faute d'avoir eu des soins. Donc la corruption, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et on fera une loi très très sévère quand il y a un crime contre l'humanité, c'est une condamnation de 30 ans d'emprisonnement.
Alors vous proposez un franc CFA flottant, qu'est-ce que cela veut dire?
Mon projet essentiel, c'est axé sur l'industrialisation. Alors pour qu'on soit compétitif, nous aussi, il faudra qu'on accepte que notre franc CFA, je ne dis pas qu'on sorte du franc CFA, parce qu'on va bien discuter avec nos partenaires de lui et moi, il faut qu'on accepte notre franc CFA soit flottant. C'est par là qu'on pourra avoir des coûts de production très très bas et être compétitif pour pouvoir écouler l'ensemble des produits qui vont être fabriqués en Côte d'Ivoire.
En face de votre candidature, il y a la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, avec la machine du RHDP. Comment allez-vous surmonter ce gros obstacle?
Oui, c'est un gros obstacle. Mais là, je dois faire de la communication, je dois faire du porte-à-porte, je dois demander aux Ivoiriens de comprendre une fois au moins leur avenir est entre leurs mains. Leur avenir, c'est leur bulletin de vote. En votant, je vote, soit j'accepte que demain, je pourrai avoir la chance de travailler, soit en votant, j'accepte que le système qui perdure depuis plus d'un demi-siècle, qui ne fonctionne pas, parce que jamais la Côte d'Ivoire n'a dépassé une croissance de 13%. Alors qu'il faut beaucoup plus pour créer de l'emploi.
Le député indépendant Kako Nyangbo, candidat à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En République démocratique du Congo, nouvelle accusation contre l'opposant congolais Eugène Diomi Nongala. Selon nos partenaires de Top Congo FM, un billet d'extraction a été délivré au président de la démocratie chrétienne par le parquet général de Kinshasa dans une toute autre affaire que celle pour laquelle il purge déjà 10 ans de prison. La défense de Diomi Nongala dénonce cette procédure et son épouse évoque son état de santé qui, selon elle, est inquiétante. Écoutons Patricia Diomi au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il est toujours privé de soins. En ce qui concerne ce qui est arrivé, nous ne connaissons rien des nouvelles accusations. Ce que je peux vous dire est que le billet d'extraction qui a été adressé hier était sans aucune référence légale. Au niveau de la prison, dans le passé, on avait fait des billets d'extraction pour les transférer à l'hôpital. Mais il y avait des policiers sur place qui refusaient de l'accompagner. Et voilà pourquoi ils n'étaient pas transférés. Et les agents qui sont venus avec ces billets d'extraction sont venus en taxi et prétendaient les transporter au parquet en taxi. Vous pouvez bien imaginer qu'en cours de route, on peut simuler un accident, une tentative d'évasion. Depuis fin septembre 2014, mon mari a introduit une plainte au niveau du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies de Genève, en se référant au protocole facultatif du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et curieusement, nous sommes au terme final de la phase introductive de cette plainte et maintenant nous entrons dans la phase délibérative. Et franchement, la RDC risque de subir une condamnation à cause des violations des droits et des procédures dans le dossier Eugène Diomi Nongala. C'est un acharnement, en même temps c'est une tentative d'intimidation. Normalement, vous voyez, le cas de Christopher Goyo, M. Muyambo, ils sont en train de subir des procès en prison. On ne comprend pas pourquoi Diomi aurait dû prendre un taxi avec 4 agents pour aller répondre à des accusations qui ne sont pas référenciées. Depuis l'arrestation de mon mari, le siège de l'ADC, le parti est pratiquement obligé d'évoluer dans la clandestinité. C'est la réalité des choses.
C'était Patricia Diomi qui parlait de la santé de son mari à Top FM, Top Congo FM à Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. Something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new.
You can buy me diamond earrings and na-na-na-na-na-na-na-na. Put a smeller on your collar, so go bye-bye-bye-bye-bye-bye. I know you're
d'aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.